winds 120 knots to the west.
Radio X Files avec Christian Page et Camille.
Oh my gosh, dude.
Radio X.
Bienvenue sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Camille Bergeron qui s'installe avec vous pour la prochaine heure. Très contente d'entamer le week-end avec vous, accompagnée du maître en personne, l'animateur de l'émission, M. Christian Page. Bonsoir, Christian.
Bonsoir, Camille.
T'as passé une belle semaine?
Oui, excellente.
Je suis très contente ce soir, cette édition du 29 novembre. Il nous reste encore quelques épisodes à faire ensemble avant le congé des fêtes. Et on retourne à l'horaire prévu après une petite écartade la semaine dernière. Et c'est une question d'auditeurs. En fait, ce sont des questions des auditeurs
exact,
ce soir
ouais.
qu'on va aborder ensemble.
Oui, absolument. Et dans les. Parce que bon, il y a deux semaines, on avait avant. Avant, on a fait une émission spéciale, on a brisé un peu la dynamique, le cycle, oui, parce qu'il y avait ces auditions qui ont eu lieu le 13 novembre dernier au Congrès américain pour parler de la question des ovnis. Et je me disais, bon, on va essayer de battre le fer pendant qu'il est chaud. On avait donc consacré une émission principalement à ces éléments-là. Et à un moment donné, on a évoqué tous les discours des gens qui ont été faits et tout le reste. Et un des auditeurs qui avait suivi un peu les présentations au congrès m'a écrit en me disant « Oui, mais il y a un moment donné, dans les présentations, il y a un invité qui s'appelle Michael Schellenberger, qui est un journaliste indépendant. Il fait un peu dans le complotisme, il croit beaucoup aux ovnis. » Je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Là. C'est un militant qui a fait quand même de très bonnes choses aussi. Mais il n'est pas associé à aucune grande agence de presse ou à un grand média.
C'est un indépendant.
Mais c'est un vrai journaliste, là, entendons-nous. Ce n'est pas un type qui s'est inventé ça. Là. C'est un vrai journaliste. Il a écrit des trucs qui sont tout à fait intéressants. Et on écoute un petit extrait quand il a présenté son fameux document qui s'appelle « The Immaculate Constellation ».
I would now like to recognize Mr. Schellenberger for his introductory remarks.
Chairwoman Mace, Chairman Grothman, Ranking Member Connolly, Ranking Member Garcia, members of the subcommittees, thank you for inviting my testimony. Unfortunately, there is a growing body of evidence that the U.S. government is not being transparent about what it knows about unidentified anomalous phenomena. One of those individuals is a current or former U.S. government official acting as a UAP whistleblower. This person has written a report that says the executive branch has been managing UAP NHI issues without congressional knowledge, oversight, or authorization for some time, quite possibly decades. The source of that document told public, me, that the USAP is a strategic intelligence program that is part of the U.S. military. The report that was just shared with Congress says Immaculate Constellation serves as a central or parent USAP that consolidates observations of UAPs by both tasked and untasked collection platforms.
Si on résume rapidement, lui accuse le gouvernement américain de manquer de transparence aussi.
Exactement. Donc, en fait, il faut quand même se le rappeler, hein, ces auditions, il y a plusieurs éléments qu'il faut retenir. On dit tout le temps des auditions au Congrès, mais il faut comprendre que le Congrès, c'est près de 450 personnes, alors qu'ici, on parle que d'une poignée d'individus, là, moins de 8 personnes qui étaient là. Donc, c'est pas tout à fait le Congrès. Et ensuite de ça, il faut savoir que les auditions du Congrès, même si les gens arrivent là et ils jurent sur l'honneur qu'ils vont dire la vérité. Il faut quand même se rappeler, et je le cite souvent en exemple, qu'au début des années 2000, Raël, après avoir juré devant le Congrès qu'il était le frère de Jésus, qui s'était baladé dans sa coupe volante, puis qu'il avait créé Ève, oui. Un bébé cloné, il n'a pas été poursuivi. Là. Bon,
il y a la vérité là, et leur vérité.
Oui, c'est ça. Non. Et il faut bien comprendre que dans le Congrès, là, les gens du Congrès, ce sont des élus qui ont également des positions, qui ont également des croyances. On l'a vu au cours des dernières élections. Des gens nous ont sorti des belles pépites. Là. T'sais, on mange des chiens et des chats à Springfield. On contrôle les ouragans qui frappent la Floride. Bon, on le voit, là, il y a eu des pépites. Ces gens-là ont leurs croyances. D'ailleurs, au cours des auditions du Congrès, il y a deux semaines, Une représentante républicaine du Colorado en a profité pour dire que l'élection de 2020 avait été volée par Joe Biden.
Encore.
Puis que si on mélangeait de l'ADN extraterrestre à celui des humains, on pourrait fabriquer des super soldats.
Ah, donc, OK, écoute, ça, j'avais entendu
ça. Écoute, tu dis là, et ça se fait dans les quatre, ça se fait entre les murs du Congrès. Là. Donc là, tu te dis, écoute, là, ça, c'est des belles pépites, là, on va retenir ça. Moi, je les ai pris en note, là. Donc, ces gens-là ont des croyances et c'est pas parce que ce sont des élus qu'ils ont forcément la vérité. Ces gens-là disent, certains d'entre eux ont des croyances et d'autres font dans des théories du complot, adhèrent à toutes sortes de concepts assez imaginaires. Et je serais pas surpris qu'il y ait des membres au sein du Congrès qui croient que la Terre est plate. Donc, c'est vraiment là, tous azimuts. Et lorsqu'arrive, et là, les gens qui étaient là, leur discours, c'est un discours qui est vieux, qui est usé. On l'entend depuis maintenant 80 ans. C'est le gouvernement nous cache des patentes, ces ovnis. Il faut quand même le dire, après 80 ans, aucun d'entre eux, pas la moitié d'un, pas le quart d'un, là, zéro, là, aucun d'entre eux n'a jamais, mais jamais apporté la moindre preuve d'une visite extraterrestre. Et il faut se rappeler que si on parle ici de science et on ne tombe pas dans les théories du complot, le complot n'est pas une réponse à une mauvaise enquête. Si toi, Camille, tu te mets à faire une enquête sur le Père Noël et tu n'arrives pas à trouver la preuve que le Père Noël existe, la réponse que tu ne peux pas donner en science, c'est « le gouvernement nous cache la réalité du Père Noël
ouais. ».
Ça ne marche pas, ça. Là. En science, ça ne marche pas. Et ensuite de ça, ce qui ne marche pas en science, c'est ce qu'on appelle l'inversion de la preuve. Tu ne peux pas dire « le Père Noël existe, prouvez-moi qu'il n'existe
ouais.
pas ». Ça ne marche pas, ça. On n'est plus ici dans le domaine de la science, on est dans le domaine du fantasme. Donc, quand ces gens arrivent et nous disent « le gouvernement cache des choses, le gouvernement sait ceci ou sait cela », si ces gens-là n'appuient pas leur déclaration par le moindre élément, on n'est plus dans la science, on est dans le complotisme. Cela étant dit, et ma position, c'est celle-là, c'est celle de la science. Souvent, et je sais que je me répète, mais quand les gens me disent « Ah oui, mais Christian Page ne croit en rien, c'est faux, je crois en la science. » Ça, c'est dur comme
c'est
ça.
Clair.
Ça, c'est ancré en moi. Donc, quand ce Michael Schellenberger est arrivé, bon, on avait nos complotistes qui nous ont raconté encore une fois, pour la énième fois, leur discours, on nous cache des choses, etc., etc. Évidemment, aucun d'entre eux n'apporte la moindre preuve de ça. Et Michael Schellenberger, lui, comme journaliste, et il faut le dire, là, c'est un individu qui croit aux ovnis. Puis c'est pas mal de croire aux ovnis, puis c'est pas mal de croire aux visites extraterrestres. Mais il y a une différence entre y croire et le présenter comme un fait.
Ouais.
Il y a un monde entre les deux. Et là, Michael Schellenberger nous sort un document qui apparaît un peu de nulle part. J'ai trouvé ça amusant parce que dans le petit extrait que j'ai choisi, qu'on fait entendre, il dit mon informateur a dit au public, et là, il dit au public, moi, et là, il continue, tu sais, lui, c'est le public. On comprend bien que ça n'a pas passé la barrière de lui-même. Donc, ce qu'il présente, c'est un document qui fait 8 ou 10 pages. C'est pas un document qui apparaît sur un papier officiel, rien de ça. C'est un document comme toi, tu pourrais en écrire un en ouvrant ton ordinateur. Tu vas sur Word.
Oh, il n'y a pas de saut.
Il n'y a pas de saut, il n'y a pas rien. Et ce document-là, là, je te donne ma critique. C'est ma position à moi, là. Mais ça fait quand même 50 ans que je suis là-dedans. Puis ça fait 50 ans que j'envoie des documents comme ça, là. Il faut savoir que dans l'univers des ovnis, et particulièrement dans l'univers des ovnis, il y a une moisson, mais tout à fait extraordinaire de faux documents. Je n'ai jamais vu ça ailleurs, dans aucun autre domaine, à part peut-être le domaine des complotistes, où on voit circuler des faux documents. Et l'univers des ovnis a des belles pépites, et là, c'en est peut-être une autre. Donc, notre Michael Schellenberger nous sort ce document-là. C'est un document écrit, parce que là, comme tu le dis en son résumé, c'est « on nous cache des choses », et Schellenberger dit « ben voilà, j'ai un informateur qui me donnait un document. Ce document-là parle d'un programme de rétro-ingénierie. Rétro-ingénierie, je le rappelle, c'est on récupère des ovnis extraterrestres, on les déconstruit pour voir comment on peut adapter cette technologie sur des engins, disons, domestiques comme des avions, des hélicoptères ou des fusées. » Ça, c'est un grand mythe là, qui circule là, depuis des décennies dans l'univers des ovnis. Hein. On a récupéré des ovnis, puis on prend leur technologie, puis on l'utilise. Mais moi, je me dis, sortez un peu de votre bulle, là, puis regardez, là, puis vous allez vite voir là, que les avions américains, là, les F-18 américains, ils ressemblent beaucoup aux chasseurs français Mirage, puis ils ressemblent beaucoup aux avions des Chinois, puis... Tu vois, il n'y a pas une cassure. Hein? On a soudainement les avions volent avec des ailes et des réacteurs, puis tout d'un coup, les Américains arrivent avec une patente qui vole sans énergie, pas d'aile. Là, tu te dis, tabarnouche, ils ont sorti ça d'où, tu sais? Mais on ne voit pas ça. Ouais. Si on récupère la technologie extraterrestre, ils l'adaptent mal. Hein? Moi, j'ai encore en mémoire là, une navette qui rentre de l'espace avec un trou dans une aile puis qui s'est désintégré à sa rentrée, ou un autre qui a explosé sur le pas de tir une minute après son décollage parce qu'il y avait un joint torique qui a fait défaut puis ça a fait sauter le réservoir de carburant.
Ça devait être dur de traverser la galaxie. Hein,
si c'est une récupération de technologie extraterrestre, qu'on nous la montre, tabarnouche, tu sais, parce qu'on la voit pas, nulle part, tu sais. On devrait voir cette technologie, en particulier du côté des Américains, on devrait la voir surpassée, même surclassée tous les autres pays. On n'a pas ça. Quand on regarde, finalement, les Américains, ils ont plus de technologie parce qu'ils ont simplement plus d'argent, mais c'est pas une technologie qui est différente de celle de la technologie des Russes, des Ukrainiens, des Chinois. C'est la même chose. Et un peu plus sophistiquée parce qu'ils ont un peu plus de budget, là. Mais tu sais, bon, tu sais, les voitures Tesla, c'est quand même quatre roues, un volant puis une batterie, là. Je veux dire qu'il faut arrêter, là. Tu sais, bon. Et là, Schellenberger, ah là, je sais, j'ai l'impression que je suis en train de m'emporter, moi, là.
On est dans les débuts, on est dans les balbutiements.
Quand Schellenberger sort son document, puis commence en disant « Ah oui, j'ai un informateur anonyme qui écrit un document anonyme sur des informations de contact anonyme », ben là, tabarnouche, il manque plus un que le Grinch, puis là, les petits lutins avec ça, là. Et c'est à l'image même de milliers de documents qui circulent dans l'univers des ovnis, des gens qui, jusqu'à maintenant, ont tout inventé ou se sont donné minimalement la peine de recopier des documents officiels, puis ont changé des mots, ils ont recopié la signature d'un président pour la copier sur un autre document. Tu comprends? Ils ont fait un peu de...
Ils ont forgé des signatures.
Tandis que là, c'est rien de ça. C'est un document comme n'importe qui pourrait en écrire un derrière son ordinateur. Puis là, ben, dans ce document-là, on reprend le même mythe. Là. Oui, les Américains ont récupéré des ovnis, des extraterrestres, font de la rétro-ingénierie. Et ce document-là, la seule chose qu'il a un peu de nouveau sur les autres qui circulent depuis des décennies, c'est parce que je veux le dire, hein, déjà au début des années 80, on avait des documents assez semblables à ça.
Okay.
On les appelait les documents du Majestic 12. Puis même s'ils ont été mille fois discrédités, même les experts dans les documents officiels disent « ces documents-là sont faux, il y a eu des expertises qui ont été faites », même si tu te donnes la peine, Camille, d'aller sur le site du FBI, et tu vas dans la section des phénomènes bizarroïdes, il y a un onglet qui s'appelle « Documents MJ-12 ». Et si tu vas dessus cette page-là, tu vois une série de pages, je pense que c'est 9 ou 12 pages, et c'est écrit en gros stylo feuille dessus « Bogus ». Hein, c'est une fraude. Là,
okay.
Bon. Et pourtant, même malgré ça, ça continue de circuler. Et que disaient ces documents? Et là, on parle des documents qui sont apparus au début des années 80. Ben, je t'apprendrai pas rien en te disant que ça disait que le gouvernement récupérait des ovnis puis ils utilisent pour faire de la rétro-ingénierie. Bon,
en fait, c'est une roue qui tourne. Dans le cas de Schellenberger, c'était ça son discours tantôt. Ça fait des décennies qu'on nous cache des choses. Ça fait des décennies que vous tentez de prouver qu'on nous cache.
Puis là, il sort un document qui ressemble presque mot à mot à des documents qui circulent depuis des décennies, des auteurs anonymes qui tiennent leur information, de sonneurs d'alerte anonymes qu'on a... Enfin, là, à un moment donné, là. Et ce qui est assez étonnant quand on regarde ce document-là, il y a deux choses, moi, qui... c'est peut-être la raison pour laquelle j'en ai pas parlé, parce que, bon, je le dis tout de suite, là, c'est ma position. Ce document-là est une autre fumisterie inventée par un type derrière son écran. Bon, ça va pas plus loin que ça. Et quand j'ai eu le document entre les mains, puis je l'ai lu, mes deux drapeaux rouges qui se sont levés, là, c'est que le premier, le document pour être déposé devant le Congrès, comme c'est un document qui fait référence, soi-disant, à des programmes de renseignement au sein du département de la Défense. Si tu veux le déposer officiellement au Congrès et qu'il y ait une notification officielle, il faut que le département de la Défense ait donné son accord pour la publication du document. Le département de la Défense n'a pas à juger si l'information est vraie ou pas vraie. Le département de la Défense a simplement à dire, est-ce que ce document-là révèle des choses qui pourraient être dangereuses pour la sécurité nationale?
Okay.
Et c'est un peu comme toi, tu pourrais déposer un document, je sais, je vais revenir encore avec le Père Noël, là. Mais
oui,
si, on approche,
on est dans
approche,
le temps des fêtes.
On est dans le temps, là. Alors, si toi, par exemple, tu veux déposer officiellement au Congrès américain un document sur le Père Noël en disant que le chariot du Père Noël échappe au radar de l'armée américaine, il faut, là, c'est une obligation, là. C'est pas un fantasme. Il faut que ce document-là soit d'abord accepté par le département de la Défense avant d'être déposé, entre guillemets, en preuve, hein, comme dans un procès. Et le département de la Défense n'a pas à juger si le Père Noël existe ou non. Il va lire ton document et lui dit « Ce document-là ne donne pas aucune information qui pourrait compromettre la sécurité nationale.
Okay. »
Il va pas plus loin que ça. Donc, là, tu as ce document-là, et là, dans le premier paragraphe, on nous dit « Ce document a été lu et a obtenu l'aval du département de la Défense. » Tu dis « Bon, ça fait sérieux, hein? Il a obtenu l'aval du département de la Défense. » Et là, ensuite, le document te raconte des histoires, là, mais incroyables. Le gouvernement tue des gens, il vole de l'argent, construit des avions avec de la technologie extraterrestre, fait tout ça dans le dos du département du Congrès, dans le dos du président. C'est d'une absurdité totale. C'est un peu comme si moi, je voulais publier un document, j'obtenais le feu vert de la CIA, et juste en dessous, après avoir obtenu le département, après, si j'avais un document comme ça, puis je dis, la CIA a autorisé sa publication, et là, je te liste le nom de tous les agents secrets de la CIA à travers le monde. Pose-toi des questions, tabarnouche, là, tu sais, là. Ben, c'est un peu la même chose. On te dit que le document, toute l'information qui est là-dedans ne menace pas la sécurité nationale. Et là, tout d'un coup, t'as 8 pages où on te parle de projets top secret. Mais non, top secret, c'est du diète, ça, là. C'est du ultra, ultra, ultra top secret.
Ouais.
Hey, pose-toi une question, là. Si le département de la Défense a dit, oh, oui, ce document-là peut être présenté au Congrès, c'est parce qu'il n'y a rien là-dedans.
Voudrais prendre le crédit aussi. Mettons que j'avais vraiment de quoi annoncer d'ultra secret. J'aimerais ça que ça vienne de moi et non pas de quelqu'un.
Oui, c'est ça. Et ensuite, il faut quand même le dire, dès que le document a été donné, hein, il a donc été déposé lors de l'audition du Congrès, ce document, encore une fois, il faut le rappeler, n'apporte rien de nouveau. C'est au haut du quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un.
Ouais.
Bon, OK. Et il faut mentionner que ce document-là, même s'il a été déposé en preuve, le fait d'être déposé en preuve, il est déposé parce que Michael Schellenberger a voulu le déposer. Là. Je veux dire, il aurait pu déposer n'importe quoi, là. Il aurait pu déposer un livre à colorier acheté chez Walmart. Là, donc ça, ça ne donne pas un crédit, là, forcément, parce qu'il a été déposé. L'autre élément qui m'a fait sourciller là-dedans, bon, d'abord, les deux premiers drapeaux rouges, c'est bien sûr le fait que le document dit ça ne menace pas la sécurité nationale. Et ensuite, il nous détaille des projets ultra top secrets. Donc là, tu dis, il y a quelque chose qui ne va pas, là, il y a une incohérence. Il faut savoir que dès que le document a été déposé au Congrès, évidemment, des journalistes, hein, au sortir de la réunion, des journalistes ont écrit dans la presse, ouais, il y a eu ce document déposé par Schellenberger parlant d'un projet ultra top secret au sein du gouvernement où on aurait récupéré des extraterrestres qui s'appelle Immaculée Constellation. Ben, il faut savoir qu'immédiatement, le département de la Défense a réagi par la voix de sa porte-parole en disant, et le communiqué était court, laconique, il disait, il n'existe, le département de la Défense n'est pas impliqué dans aucun programme de rétro-ingénierie ou de récupération d'OVNI, et autant maintenant que dans le passé, le département de la Défense n'a jamais trouvé dans ses archives aucun projet ayant porté le nom de Immaculée Constellation.
OK.
Et là, évidemment, puis là, je comprends, là, si on tombe dans l'univers complotiste, c'est de dire, bon, c'est sûr, le gouvernement, il ne dira pas ça parce qu'il nous cache ça. Mais pensez-y un peu. Il ne nous le dira pas pour nous le cacher, mais il a autorisé que Schellenberger dépose le document devant le Congrès. C'est fou, là. C'est complètement fou, là. Je pense qu'à ce niveau-là, là, il manque plein que les chiens et les chats de Springfield. On est vraiment dans ce niveau-là, là.
Ah, donc, c'est facile de faire passer l'audio à quelqu'un, de dire, gars, sors-le pour moi, puis j'aurai de la surprise, mais là, parce qu'il y a un saut d'approbation, entre guillemets. Approbation, ouais. Tu sais.
Donc, la raison pour laquelle j'en ai pas parlé, ben, écoute, après 50 ans passés là-dedans, j'en ai vu tellement de ces documents-là, les documents du Majestic 12, les documents qui faisaient référence au guide d'emploi du bon employé de la zone 51. Écoute, il n'y a rien. Il existe, wow. Ce document-là. Il existe, hein? Un livre qui est apparu.
Le code de conduite.
Ah oui, le code de conduite, il est apparu là, à la fin des années 80, là, après les déclarations de Bob Lazar sur la zone 51. De coup, oups, venant de nulle part, anonyme, d'une source, on arrive avec un petit livret là, qui nous dit c'est le bon livre, le bon code de conduite des employés de la zone 51.
Wow.
Et comment bien se tenir si vous rencontrez un extraterrestre dans un corridor. Donc, c'est de l'absurdité là, totale.
C'est pareil. Il faut le prendre en riant, c'est de l'humour.
Ouais. Je voulais te dire aussi, ce document-là, il y a quelque chose aussi qui m'a frappé à la lecture. Hein. Ce document-là, ce que dit Schellenberger, c'est un individu, puis il le contextualise bien. Au début, c'est un individu qui travaille dans les services de renseignement très pointu du département de la défense, et là, qui a accès à ces informations. Mais quand tu lis le document, ça ne dépasse pas un niveau de secondaire 5. Autrement dit, c'est un peu comme si moi et toi, Camille, on décidait demain matin d'écrire un scénario pour la radio ou la télévision. Ça se passe dans un hôpital, puis tu sais, il y a des médecins qui travaillent contre un patient qui est atteint d'un cancer.
Ouais.
Bon, on fait ça ensemble, on s'assoit sur un bout de table. On se prend 2-3 magazines de médecine, tu sais, genre la médecine pop, là, un petit magazine, on prend ça, entre les recettes de grand-mère puis des 3-4 opinions, on fait notre scénario, on écoute 2-3 épisodes de Stat à Radio-Canada, ouais. Là, puis on fait notre scénario, puis on fait ça. Pour le public, on s'entend bien, les gens vont dire, mon Dieu, que c'est donc bien écrit puis que ça a donc de l'air crédible. Mais si on prend notre même scénario et on le met entre les mains de 2 oncologues, ils vont-tu se bidonner, tu penses?
Ils vont dire que c'est pas 6 ans d'université, ça là.
C'est ça, non, c'est ça. C'est au bas des pâquerettes, c'est de la pop culture. C'est pas comme ça que ça se fait dans le milieu de la médecine. C'est pas. Mais c'est un peu la même chose. Quand je lis ce document-là, ça ne dépasse pas un secondaire 5. Ce n'est pas un document tel que l'aurait dirigé quelqu'un qui appartient réellement au service de renseignement. C'est vraiment... C'est un document d'un gars qui regarde trop de documentaires sur Netflix. Là. Ça ne dépasse pas ce niveau-là. Là. Tu dis, bon, OK. Fait que moi, quand je l'ai lu, la raison pour laquelle je n'ai pas insisté là-dessus quand on a fait notre émission spéciale, je trouvais ça plus important qu'on parle de ce qui s'était tenu au Congrès, hein, donc les intervenants, mais surtout la réunion du lendemain où on avait reçu à huis clos John Koslinski, qui est le directeur de l'ARO, hein, ce programme de étatique du gouvernement, du département de la défense pour enquêter sur les ovnis. Je trouvais plus important de mettre de l'emphase là-dessus, de ce nouveau rapport-là, que de se perdre dans ce document de l'immaculée constellation qui n'est, à mon avis, qu'un document frauduleux à mettre sur la pile des très nombreux documents frauduleux qui circulent dans le domaine des ovnis.
Qui laisse une impression de jour de la marmotte un petit peu, hein, pour le phénomène ovni.
Oui, absolument. Et puis, c'est, dans cet univers-là, c'est assez étonnant parce que tout ça s'alimente, hein, ça sert à alimenter. Moi-même, des fois, j'avoue que je n'ai pas la formation scientifique suffisante dans le domaine des sciences sociales pour comprendre la mécanique de comment ça fonctionne. Des fois, je suis un peu dépassé. Je me dis, là, il doit y avoir des sociologues ou des anthropologues qui doivent se régaler avec ça. Là. Mais comment ces gens-là vivent dans leur propre bulle,
ouais,
créent leur propre mythe et alimentent leur propre mythe. Et toute information qui vient de l'extérieur, ils sont comme sous un parapluie ou dans une bulle de protection. Toute information qui vient de l'extérieur rebondit sur les parois de la bulle et n'entre jamais dans la bulle, de façon à ne jamais briser le rêve qui est entretenu dans la bulle. j'avoue que la psychologie de ces gens-là, ça me dépasse parfois. Puis
on n'est pas loin du phénomène sectaire un petit peu. On veut pas, on se conforte dans une croyance qui est commune et qui est une zone de confort.
Tu as tout à fait raison, Camille. Moi, ce que je sais, parce que pour avoir écrit sur le sujet, les théories du complot, les tueurs occultes, etc., je connais, puis j'ai un de mes bons amis qui dirige InfoSec à Montréal.
OK.
Quand on regarde les mécanismes qui sont à l'œuvre dans cet univers-là, soit des ovnis ou le complotisme, on est très, très proche. Ce sont les mêmes mécanismes qu'on retrouve dans les mouvements sectaires, hein, comme les amateurs d'ovnis, hein, qui adhèrent. Puis entendons-nous, là, quand je dis amateurs d'ovnis, j'entends les plus zélés, là, parce que ça ne veut pas dire que tous les gens qui s'intéressent aux ovnis sont des zélés de
non,
la
non,
sorte.
C'est ça.
Mais dans cet univers-là, là, quand on tombe dans l'univers des zélés, ils sont imperméables à toute critique, hein, parce que dès qu'on présente une critique, ça devient soudainement... c'est une théorie du complot, le gouvernement nous cache quelque chose. Il y a toujours un moyen d'esquiver le simple bon sens. Et le simple bon sens, c'est comme je viens de le dire, là, n'importe qui d'équilibrer quand tu lui dis, écoute, le document au début dit, il a été autorisé, sa publication a été autorisée par le département de la Défense, et la phrase suivante, il commence à te raconter qu'on tue du monde, on vole de l'argent, on est impliqué dans des programmes ultra, 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 top secrets, et la publication de ces documents-là ferait que des gens mourraient. Ben, le bon sens te dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Ça peut pas marcher. Mais ces gens-là, je suis certain que si on en avait là, de ces ailes-là, et où on parlait avec Michael Schellenberger, ils trouveraient le moyen de justifier pourquoi c'est comme ça. Et là, on n'est même plus dans l'ordre du bon sens. Là. On est dans une espèce de fantasme qui relève, comme tu le mentionnes, des mécanismes qu'on retrouve dans les mouvements sectaires.
Qui devient une bulle. On se rapproche de 20 heures. Christian, je te permets de faire la pause tout de suite. On va être de retour dans quelques minutes. Et t'as piqué ma curiosité avec le bâtiment. Je ne sais pas si on reste dans la zone 51, là, mais j'ai hâte de savoir où est le bâtiment numéro 7.
Le bâtiment numéro 7, mais on reste dans les théories du complot quand même.
D'accord, restez là. On s'arrête quelques minutes ici même à Radio X.
Radio X-Files, avec Christian Page et Camille.
Radio X.
De retour dans les Radio X-Files et j'ai très hâte, car on a teasé le sujet avant la pause, j'ai hâte de voir où est situé ce fameux bâtiment numéro 7, Christian.
Le bâtiment numéro 7, c'est un bâtiment, je vais te donner un indice, c'est un bâtiment qui n'existe plus depuis le 11 septembre 2001.
Oh, OK, fait qu'on est à New York. Donc,
voilà. Généralement, quand on parle des attentats terroristes du 11 septembre 2001, on dit toujours les tours du World Trade Center. Mais il faut comprendre qu'on est sur un quadrilatère qui est un peu plus large, qui s'appelait le World Trade Plaza. Donc, on avait qui étaient dominés, bien sûr, par les deux tours, mais il y avait des bâtiments autour de ces tours-là qui formaient tout un quadrilatère. Et l'un de ces bâtiments, c'était ce qu'on appelait le bâtiment numéro 7, qui était listé sur les plans de la ville comme étant le WTC-7, hein, le World Trade Center 7, le bâtiment numéro 7 du World Trade Center Plaza. Et quand on parlait des mythes qui ont la vie dure, ça, c'en est un. Quand on se... Bon, les gens... Là, c'est quand même étonnant, hein, quand je pensais à cette nouvelle-là, parce que c'est un auditeur qui m'a demandé de parler de ça. Il y avait eu une discussion avec des gens autour de lui, puis on était revenu sur les théories du complot entourant les attentats du 11 septembre, et quelqu'un avait évoqué ça, puis il dit « J'aimerais avoir votre opinion. » C'est un mythe qui a la vie dure, parce que... Et quand je regardais ça, je me dis, c'est quand même étonnant. Ça fait quand même, là, ça va faire bientôt 24 ans de ça. Là.
Ouais.
Hein, moi, j'ai l'impression que c'était encore hier, les attentats du 11 septembre. Et pourtant, il y a une vingtaine d'années qui se sont écoulées. Il y a toute une génération de jeunes qui nous écoutent probablement à la radio, qui, pour eux, le World Trade Center, c'est des images à la TV. Hein?
J'en fais partie. Moi, écoute, je suis pas fière de le dire, mais c'est quand même une anecdote, là, parce qu'en 2001, j'avais 4 ans. Quand on a regardé les nouvelles, naturellement, mes parents se sont jetés sur la télé comme tout le monde qui nous écoute là, quand c'est survenu. Et moi, juste contente de voir tout le monde réuni dans le salon, j'étais comme « Ah, waouh, quelle belle journée! » ne sachant pas dans ma naïveté de 4 ans ce qui se passait. Puis ça a changé la sécurité aéroportuaire internationale.
Oui. Il y a eu un monde avant le 11 septembre
et après.
Même sur les antennes, même les... les relations diplomatiques et principalement de l'Occident versus le Moyen-Orient.
C'est ça.
Il y a eu des changements dans ce qui s'est fait à la fois dans la pensée et les ententes diplomatiques. Donc, ce World Trade Center 7, c'est, comme je l'ai dit, c'est un mythe qui a la vie dure. Hein, parce que quand on se... Bon, pour les gens là, pour eux, ça deviendrait un peu flou, là, les attentats du 11 septembre. Il faut se rappeler que deux avions vont percuter. Là, le premier à 8h45 percute la tour nord et le deuxième à 9h02 va percuter la tour sud. On parle ici de deux avions, le deux Boeing 767. L'un de l'American Airlines et l'autre de la United Airlines qui avait été détourné par des terroristes qui vont envoyer les avions sur les tours du World Trade Center. Évidemment, ça crée un onde de choc. Il y aura deux autres avions dans la matinée, là, une trentaine de minutes plus tard, qui va aller frapper la façade ouest du Pentagone, qui lui aussi s'est retrouvé au centre de toutes sortes de théories du complot. Là, on était rendu, il n'y avait même plus d'avion, c'était un missile ou un avion en 3D, là, tu sais, un hologramme. Non, okay. Et puis à 10h03, il y a un autre appareil qui est détourné par les terroristes. On ne connaît pas l'objectif, mais on croit que c'était peut-être la Maison-Blanche ou peut-être le Capitole. Mais quoi qu'il en soit, au dernier moment, des passagers ont réussi à reprendre pas les commandes de l'appareil, mais à tout le moins à submerger, à maîtriser les terroristes. Ils n'ont pas été en mesure de faire changer, de faire atterrir l'avion, mais l'appareil a visiblement été... Ils ont néanmoins réussi visiblement à le détourner de sa cible, de son objectif, puisque l'avion s'est écrasé dans un champ en Pennsylvanie à 10h03 ce matin-là. Donc, les attentats, c'est quatre avions, quatre gros porteurs qui vont être détournés par des terroristes. Donc, là, on revient à notre World Trade Center. Hein, la tour sud, elle, qui a été frappée à 9h02, 57 minutes plus tard, elle va s'effondrer. On a tous en mémoire les images des tours qui s'effondrent. C'était excessivement spectaculaire parce que ça s'est effondré un peu comme un soufflet dans un four. Là. Ça s'est écrasé, ça s'est vraiment effondré sur elle-même.
Ouais.
Et à 10h28, la tour nord, qui elle avait été frappée à 8h45, s'est effondrée également à son tour avec le même spectacle un peu ahurissant. Ce qui va alimenter une théorie, là, il y a toutes les théories du complot qui entourent les tours elles-mêmes, mais il y a un bâtiment qui va devenir une cible particulière pour les amateurs de complot, c'est le bâtiment numéro 7. Le bâtiment numéro 7, il se trouve à proximité, il est sur le même quadrilatère. C'est pas un gratte-ciel, mais c'est un bâtiment très élevé, il compte quand même 47 étages. Et ce bâtiment, il va s'effondrer à 17h20. Donc, on est quand même là 6-7 heures après les attentats du World Trade Center. Les tours sont effondrées. On est devant un spectacle ahurissant d'un champ de ruines, d'incendie. Et là, tout d'un coup, on voit ce bâtiment qui est un peu qui était comme derrière les tours. On le voit s'effondrer comme un château de cartes aussi. Et là, ce qui est très trompeur, et là, c'est une des premières révélations, ce qui était très trompeur, c'est que les images que les médias nous ont présentées, où on voit le bâtiment s'effondrer, les caméras étaient placées du côté qui n'avait pas été endommagé par l'effondrement des tours, tu comprends? Le bâtiment est à côté des tours, fait que, imaginons là, un côté nord et un côté sud. Les tours sont du côté sud. Quand elles se sont effondrées, les tours, évidemment, elles ont endommagé tout ce qui était dans leur périmètre, incluant la façade sud de ce bâtiment numéro 7. Mais la façade nord qui donnait sur la rue, elle n'a pas été endommagée. Les caméramans se trouvaient, les images que l'on a vues à Société, les caméramans se trouvaient face à la façade nord. Donc, on voit un bâtiment, sur les images, on voit un bâtiment qui, a priori, est tout à fait intact.
Oui. Il y a eu
un incendie, bon, mais les théoriciens du complot rappellent, et avec raison, qu'aucun gratte-ciel, aucune tour de construction ne s'est jamais effondré par un incendie uniquement. Or, pourquoi lui s'effondrait? On voit qu'il y a eu un incendie, les fenêtres sont brisées, il y a de la fumée qui s'échappe, là, d'un coup, on voit le bâtiment qui s'effondre. Et là, c'est un peu une illusion de la caméra, parce que il y a eu quand même deux rapports qui ont été faits autour, parce que là, on se dit, pourquoi ce bâtiment-là, les tours, à la rigueur, si on n'est pas trop complotiste, on dit, bon, ben, les tours, on voulait détourner des avions, les terroristes, puis quand ils arrivent à New York, c'est difficile de rater des cimes comme les tours du World Trade Center, là. C'était les monuments les plus élevés de la ville, tu sais. Fait que c'était facile d'envoyer un avion. Mais là, pourquoi ce bâtiment-là s'effondre comme ça 7 heures après? Alors là, les théoriciens du complot disent, ben, c'est vrai que ce bâtiment-là abritait des bureaux de la CIA. Il y avait des bureaux du département de la Défense. Oui, mais il y a aussi du bureau du département du revenu. Fait que là, si toi, t'avais ton dossier là, tu paieras pas tes taxes cette année.
Oh, c'est ça.
Le bâtiment a disparu. Il y avait aussi il y avait un bureau aussi de la commission mobilière. Il y avait également le bureau des mesures d'urgence de New York qui était là. Donc, il y avait plusieurs bâtiments. C'est vraiment un bâtiment commercial. Donc, quand les théoriciens du complot ne ciblent que le bâtiment en disant, ben voilà, il y avait des bureaux de la CIA. Il y avait notamment des bureaux de la CIA. Il n'y avait pas que des bureaux de la CIA. Et pourquoi? Et ça change quoi qu'il y ait des bâtiments, des dossiers?
Ça allait être ma question,
oui. Donc là, c'est parce qu'ils voulaient détruire des documents compromettants. Ben moi, chez nous, là, j'ai conservé longtemps les dépliants de Canadian Tire. Puis si je voulais les détruire, là, je ne mettrais pas le feu à ma maison. Tu sais, tu comprends? C'est un peu stupide. Tu sais, s'il y a des documents compromettants, ben, va chez Bureau en gros acheter 3-4 déchiqueteuses à papier ou efface ton disque dur, mais tu ne détruis pas un bâtisse parce que tu veux cacher un document.
Ça me paraît extrême, hein,
ouais. Tu sais, ouais, t'es un peu excessif, là, tu sais, là. Hop, je n'aime pas la nouvelle couleur de mes rideaux dans mon salon, je brûle la maison.
Est-ce que c'est ça qui a alimenté la conspiration que c'était une job de l'intérieur?
Ben, en fait, la façon dont le bâtiment s'effondre, c'est sûr, quand tu regardes un bâtiment qui semble, a priori, et les images te donnent cette impression-là, tu as un bâtiment qui semble, a priori, intact. On sait qu'il y a eu un incendie, là, parce que quand même, il faut comprendre aussi la mécanique de l'incendie. Parce que bien souvent, dans le cas des théories du complot, ces théories-là sont exposées ou proposées par des gens qui manquent de connaissances. Hein? Comme par exemple, dans le cas du bâtiment numéro 7, on sait qu'il y avait 5 citernes qui représentaient 42 000 gallons de diesel au sous-sol qui alimentaient le bâtiment pour le chauffage, l'électricité et tout le reste. Donc, ce diesel a brûlé pendant 6 ou 7 heures. Il faut savoir que les gicleurs ne fonctionnaient pas parce que lorsque les tours du World Trade Center se sont effondrées, elles ont endommagé la tuyauterie qui servait à alimenter les gicleurs en eau. Donc, le feu a brûlé comme ça, le feu a été actif pendant de longues heures sans qu'il y ait de gicleurs pour essayer de les éteindre. Et le métal, évidemment, avec la chaleur est devenue très élevée, bien, le métal va s'affaiblir, le métal perd 50%, l'acier perd 50% de ses propriétés de soutien, ouais, à partir d'à peu près de 600 degrés. Quand les théoriciens du complot disaient « Ouais, mais le fer, l'acier fond à 1200 degrés. Ouais, mais à 600 degrés, il y a de l'air du spaghetti. Là. Il est pas liquide, mais il est comme du spaghetti. Il n'y a plus de force. » Et quand le bâtiment s'est effondré, les poutres, des poutres de soutien qui étaient mitoyennes entre les bâtiments, ces poutres-là ont allongé de 11 cm à cause de la chaleur. Et quand elles se sont allongées de 11 cm, tu comprends qu'elles se sont délogées, hein, elles sont rentrées comme dans... elles sont embouffetées, là. Mais quand tu te rallonges de 11 cm, de même, tu sors de ton emprisonnement, puis là, ben, il n'y a plus de support, puis le bâtiment s'est effondré. Mais la vraie raison pour laquelle le bâtiment s'est effondré, c'est parce que le côté sud, hein, si on reprend notre vision côté sud, côté nord, les images nous montre un bâtiment qui semble a priori intact. Ça, c'est des images tournées du côté nord. Mais du côté sud, hein, quand on regarde des photographies qui ont été prises par les hélicoptères de la police de New York, qui ont d'ailleurs servi à alimenter l'un des... parce qu'il y a eu 3 enquêtes sur les attentats du World Trade Center. Un qui était le rapport du gouvernement. Un autre qui a été un rapport qui a été fait par la FIMA, le Bureau des services d'urgence, et un autre spécifiquement sur l'effondrement des bâtiments qui était... Parce que, encore une fois, c'est un peu amusant, parce que quand les gens disent « Oui, mais j'ai lu le rapport du gouvernement sur le 11 septembre, et dans ce rapport-là, on ne parle pas vraiment de l'effondrement des bâtisses, comme si on avait voulu cacher quelque chose. » Non, c'est parce que ce rapport-là n'avait pas... C'était pas ça non plus son objectif. Le rapport du gouvernement, c'était de dire « On a eu une attaque terroriste, crise commence à plus se produire. On n'entre pas de savoir, y a-t-il un boulon qui a lâché quelque part, là. C'est plutôt le concept même de l'attaque terroriste. Pour ce qui est du bâtiment, pourquoi il s'est effondré, cette charge-là a été imposée au bureau des standards, des technologies des standards, là, qui s'appelle le NIST aux États-Unis, et c'est ce bureau-là qui a été chargé d'enquêter de savoir pourquoi ces bâtiments-là se sont effondrés, pourquoi les tours se sont effondrées de cette manière-là. Puis toutes les réponses sont là. Il n'y a pas de mystère, là. Et on voit dans ce rapport-là, on voit des photographies qui ont été prises par les hélicoptères de la police de New York sur le côté sud du bâtiment. Et toute la base de ce bâtiment-là avait disparu. Quand les tours se sont effondrées, là, elles avaient arraché là, toute la base du bâtiment du côté sud. Ah, complètement. Là. Écoute, c'est étonnant qu'il soit resté debout si longtemps, d'ailleurs, parce que c'est vraiment un peu comme, imagine-toi un tronc d'arbre, que tu le vois d'un côté, il est très beau, mais de l'autre côté, avec une hache, tu sais, t'as entaillé là, le tronc jusqu'au centre. Tu sais, là, bon, de quelle façon tu vas te placer au côté de l'arbre, peut sembler très, très bien, mais si tu vas de l'autre côté de l'arbre, tu vois l'entaille qui a été faite dans l'arbre, et tu comprends qu'il faudrait rien qu'une petite poussée pour le faire basculer.
Ça tient de rien, ben oui.
C'est exactement ce qui s'est passé avec le bâtiment numéro 7. Donc, tout avait été affaibli par le feu, mais ce n'était pas suffisant pour le faire basculer. Mais éventuellement, ça a ajouté au fait que la base avait été entièrement détruite par l'effondrement des tours. Ce n'était qu'une question d'heure que le bâtiment numéro 7 s'effondre. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Quand il s'est effondré, bien là, évidemment, si toi, tu n'es pas une experte en bâtiment, puis tu regardes ça, bien, ça semble très mystérieux de voir le bâtiment. On a presque l'impression qu'il implose, hein, comme on le voit quand on détruit des bâtiments. On demande à des artificiers d'aller poser de la dynamite à l'intérieur et le bâtiment va s'effondrer. Bien, c'est exactement de cette manière-là que c'est effondré. Les théories du complot, hein, si on prend plus largement, parce que là, ce que je t'ai livré là, c'est ce qu'on peut lire dans le rapport des experts sur les standards et la technologie qui ont mené leur enquête sur à la fois les tours et les bâtiments voisins, là, pourquoi ils se sont effondrés. Toutes les explications sont là. Il n'y a pas aucun mystère là-dedans. Je veux dire, quand le métal ne tient plus, puis les taux, tu sais, faut comparer des pommes avec des pommes. Tu sais, quand des gens disent, ouais, mais dans les années 50, il y a un avion qui a frappé l'Empire State Building, puis il ne s'est pas effondré. Ouais, mais l'Empire State Building est un bâtiment, là, je ne sais pas si tu l'as visité, l'Empire State Building, mais ouais. C'est un bâtiment qui est fait en béton, là, du plancher jusqu'à la tour en haut, là, c'est un bâtiment en ciment. Là. Les tours du World Trade Center, c'était des tours autoportantes. Là. C'était des tours, c'est un peu comme un jeu de Lego, ça. Là. C'était une glavite qui avait autour de ça.
On peut aller même plus petit, Christian, puis faire la comparaison avec les carrosseries de véhicules de l'époque versus aujourd'hui. C'est pas mal moins dangereux d'en mourir maintenant avec la façon que le...
Ouais. Mais c'est surtout ça. Tu sais, il faut comparer les choses avec la façon dont les tours du World Trade Center étaient construites, une espèce d'armature d'acier entourée de verre avec les ascenseurs au centre, comparé à un bâtiment comme l'Empire State Building qui est fait en béton. Tu ne compares pas la même chose.
C'est
faussé ton raisonnement. Là. Donc, des tours autoportantes comme celles du World Trade Center, c'est ce qui explique pourquoi elles se sont effondrées lorsque les avions, après une heure, ont brûlé de cette manière-là. Comme la structure elle-même, c'est une espèce d'échafaudage en métal, ben, après une heure, a brûlé parce que le kérosène des avions a tombé dans les... glissé dans les... Parce que quand on regardait de l'extérieur, encore une fois, faut toujours faire attention entre ce que l'on voit et ce qui se passe en réalité. Quand on regardait les tours du World Trade Center, les gens devant leur téléviseur voyaient une tour et ils voyaient un trou dans la tour puis de la fumée qui sortait du trou de la tour. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'est que tout le kérosène des avions a glissé dans les cages d'ascenseur des avions et il y avait comme un foyer, là, un feu là, qui faisait des centaines de mètres qui partait du pied de la tour et qui montait dans les tours d'ascenseur.
Ouais.
Et ça, évidemment, c'est un peu comme les tours du World Trade Center. De l'extérieur, c'était un trou qui sortait de la fumée. De l'intérieur, c'était une véritable cheminée avec un feu au centre.
C'était effrayant.
Et ça, éventuellement, évidemment, l'acier n'a pas pu résister à ça. Il s'est affaibli, la tour s'est effondrée sur elle-même, et en plongeant vers l'intérieur, puisque c'est là que le feu se trouvait, c'était les cages d'ascenseur, donc on l'a vu un peu s'effondrer vers l'intérieur, puis il fallait s'attendre à ça. Le bâtiment numéro 7, c'est exactement de la même façon. Ce qu'il faut se rappeler, quand on parle de manière plus large des théories du complot, c'est que les théories du complot, elles s'essoufflent, et le temps joue contre elle. Et c'est le cas, par exemple, avec le World Trade Center. Quand l'événement s'est produit en 2001, là, on avait plein de gens qui évoquaient toutes sortes de théories. Des gens sont allés porter des bombes, les avions étaient téléguidés. Bon, on avait toutes sortes de théories, certaines tout à fait fantaisistes. Mais ce qui arrive, malheureusement, dans les théories du complot, puis que ce soit celle-là ou d'autres, là on n'était pas, on pas allé sur la Lune ou peu importe, n'importe quoi, les théories du complot avec le temps, pourquoi elles s'effondrent d'elles-mêmes? C'est parce que les gens qui vivent dans ces théories du complot, qui sont embrigadés dans ces théories-là, vivent dans un monde qui est tout à fait artificiel. C'est pas le vrai monde. Le vrai monde là, dans lequel moi je vis, là, les gens meurent et vivent. Les gens ont besoin d'argent. Les gens passent des mauvaises passes. Les gens divorcent. Les gens ont des problèmes financiers. Ça, c'est le vrai monde. Donc, lorsque une théorie du complot, ben, tu peux pas croire qu'après 25 ans, personne, tu sais, combien de gens aurait fallu impliquer dans les tours du World Trade Center pour que ce soit un inside job? Mettons 1000 personnes. Puis là, je suis très, très minimalement, là, parce que tu sais, il faut que les contrôleurs aériens jouent le jeu, que les constructeurs d'avions les aient transformés pour les téléguider, les gens qui allaient sur place pour récupérer les débris. Bon, tu sais, c'est une organisation. Puis aller porter les artificiers qui ont mis de la dynamite dans les tours. Puis bon, ça demande énormément de gens, minimalement, là, puis c'est vraiment minimalement, au moins 1000 personnes. L'événement se passe le 11 septembre. Le 12 septembre, que tout le monde garde le secret, ça pourrait marcher. Mais le 13 septembre, ça pourrait plus marcher. Parce qu'à un moment donné, ce qui va se produire avec le temps, c'est que des gens, par exemple, un qui a participé à ça, ben, il a des remords. Donc, il va aller parler à quelqu'un. Puis, bon, ces gens-là parlent. Il y a 1000 personnes qui sont impliquées dans le complot. Ouais. Ensuite de ça, ces gens-là ont un secret qui est monnayable. Hein, si moi, par exemple, j'ai mis des bombes dans le World Trade Center, puis 3 ans après, on me diagnostique avec un cancer de stade 4, puis je vais mourir, j'ai un secret qui est monnayable. Ce secret-là, je ne laisserai pas ma femme et mes enfants dans la difficulté ou la misère. Je vais aller vendre mon secret quelque part. Tu sais. Puis là, après 20 ans, même si toi, par exemple, tu as divorcé de ton chum puis il est parti avec tout ton argent, toi, tu dis, hey, moi, là, j'ai mis des bombes dans le World Trade Center. Je vais rappeler au Pentagone ou à la CIA pour lui dire de me donner un autre chèque parce que là, j'ai besoin d'argent. Tu sais.
Oui, des aides de reconnaissance. Les revendications d'attentats, c'est ça aussi. C'est de dire, regarde, c'est moi qui l'ai fait.
Ouais, puis le gars à la CIA qui t'a payé il y a 25 ans pour aller mettre une bombe, lui, il plus là. Fait que le gars, le nouveau qui est là, quoi, lui aussi, on l'a briefé pour dire, ça se peut qu'au fil des ans, des gens qui ont participé au complot te demandent plus d'argent parce qu'ils sont insatisfaits de leur sort. Tu sais, là, ça devient comme d'une absurdité là, complètement fantaisiste. Tu peux pas adhérer à ça. Il existe d'ailleurs, en statistique, il y a une espèce d'équation. Puis cette équation-là, elle prend en considération différents éléments. Tu sais, et c'est comme... Combien de gens ont été impliqués? Combien est-ce que ça a suscité l'intérêt des médias? Combien de gens là-dedans avaient tel âge ou tel âge? Bon, donc, en multipliant le nombre de gens par le nombre de journaux qui en ont parlé, par le nombre d'heures que ça a fait dans les médias, par le nombre de... On arrive à une équation. Et cette équation, c'est l'équation du secret. Combien de temps le secret aurait pu durer? Et dans le cas du World Trade Center, c'était de l'ordre de la seconde. Hein? C'était 31 secondes. S'il y avait vraiment eu là, cet inside job, là, 1000 personnes qui auraient ensemble déposé, monté ce truc-là, une trentaine de secondes après les événements, des gens auraient commencé à parler.
Et c'est fascinant ce que tu mentionnes parce qu'avec, on va dire, l'ampleur médiatique des années 2000, début 2000, aujourd'hui, c'est quoi, des fractions de secondes?
Oh oui, parce que là, aujourd'hui, tu sais, comme tout de suite, quelqu'un immédiatement dirait quelque chose sur Internet. Puis
l'instantanéité de l'information.
Si c'est un événement qu'on ne parle pas dans les médias, tu peux garder le secret plus longtemps, mais tu sais, à ce moment-là, lorsque le 11 septembre s'est produit, 24 heures sur 24, il y avait une couverture médiatique aux États-Unis là, sans relâche autour de ça. Donc, c'était de l'ordre de quelques secondes pour que des gens commencent à parler. Tu sais. Fait que c'est pour ça que, puis avec le temps, bien évidemment, les gens, comme je l'ai mentionné, on vit, les gens meurent, les gens ont des problèmes. Le gars qui a été payé 1 million pour mettre une bombe à cette époque-là, ben 30 ans plus tard ou 20 ans plus tard, il est allé jouer, il a divorcé, il n'a plus d'argent, il est allé jouer au casino, il a perdu sa maison, puis là, il a besoin d'argent. Ben il y a un secret qui est monnayable. Ce secret-là, il va le vendre. Il n'y a pas personne qui va rester chez soi là, dans la pauvreté. S'il y a un secret qui est monnayable, c'est pour ça que ces grands complots-là, ils ne peuvent pas résister au temps, tu sais, c'est parce que le temps va finir par user les gens qui auraient été impliqués dans le complot. Mais bon, ça, c'est le simple bon sens qui parle et la statistique et les mathématiques.
C'est fascinant. J'adore le concept des questions d'auditeurs parce qu'on va partout. Puis celle-là, je l'avais jamais entendue, cette théorie concernant le 11 septembre. Monsieur Christian Page, c'est toujours un plaisir d'avoir des réunions bicotidiennes qu'on a. On reprend ça lundi prochain pour Suspect X avec notre criminologue Dan Caracella que tu vas rencontrer en fin de semaine au Salon du Livre.
Oui,
est-ce
absolument.
Que tu as un numéro de kiosque pour les auditeurs qui aimeraient te serrer la pince?
Je ne l'ai pas, non.
D'accord.
J'avoue que tu me poses une très bonne question, mais je ne l'ai pas.
Si tu l'as en cours de route au courant du week-end, tu pourras le mettre sur ta page. Sinon, suivez la longue file de dédicaces et c'est probablement Christian qui sera au bout.
Ouais. Mais je me rappelle en 1977 ou 78, peut-être 79, j'étais allé au Salon du Livre pour faire signer mon album Tintin au Tibet par Hergé, Georges Rémy. Écoute, je pense qu'il y avait... à l'époque, ça se tenait à la place Bonaventure à Montréal. Je pense qu'il y avait du filet jusque dans le stationnement pour rencontrer Hergé. Tu sais.
Ça m'étonne pas.
Ça m'étonne pas. Mais bon, Salon du Livre, rendez-vous pour les gens de la région de Montréal. Puis je serai, bien sûr, au Salon du Livre en début d'année prochaine à Québec.
On va suivre ça. Christian, bon salon en fin de semaine. Bon week-end.
Merci.
Aux auditeurs également. Et on se dit à lundi.
À lundi. Ciao.
Bye.